Est-ce que vous n'êtes pas déjà arrêté un jour et puis regardé assis sur le dos ou allongé sur le dos, regarder les étoiles et vous dire mais finalement pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est cette vie qu'on est en train de faire? Quel est l'objectif de cette vie? Je suis persuadé qu'on l'a tous vécu ça, ce moment-là. Alors, on nous parle d'évolution, on nous parle d'accidents chimiques qui nous ont amenés à être ce que nous sommes aujourd'hui. Et puis après, on nous dit, ben, à la fin de l'évolution, il n'y a plus rien. C'est la fin, c'est le désert, il n'y a plus rien, c'est la bombe atomique, il n'y a plus rien. Alors, quand on réfléchit comme ça, mais, on peut se dire, mais pourquoi aller à l'école finalement? Pourquoi aller faire des études? Pourquoi se fatiguer pour que finalement, à la fin, il n'y ait plus rien? Ça sert vraiment à rien. Pourquoi souffrir? Pourquoi vieillir? Et je pense que c'est pour ça que dans certains pays, on peut trouver, dans certains pays occidentaux, des suicides qui sont en augmentation. Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'objectif, il n'y a plus de but, il n'y a plus, de choses qui aident à pouvoir passer le chemin de la vie. Mais si on écoute ce que Dieu veut nous dire, alors il peut y avoir un autre objectif. Et je veux parler là du cœur du Père. Parce que ce n'est pas seulement un message, mais c'est une perspective de vie. C'est une autre façon de vivre. C'est la révélation de la réalité. C'est qui nous sommes vraiment. Si on découvre qui nous sommes vraiment, alors on vivra différemment. Et je veux vraiment prier pour ce matin, pour qu'on puisse voir comme il voit. Non pas seulement comprendre les choses, non pas seulement connaître les choses, mais les comprendre. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 14:6, la connaissance est aisée pour ceux qui comprennent. Donc si je comprends, la connaissance de ces choses sera évidente. Hein ? La traduction en français, c'est ça rend intelligent. Mais la traduction anglaise, c'est pour ceux qui comprennent. Et si on regarde la traduction du texte original, on est un petit peu entre les deux. Les deux sont possibles. Je veux comprendre les choses de la vie. Et je veux vivre ma vie comme Dieu la voit. Je veux la comprendre, la vivre intensément au plus profond de moi-même, comme Dieu pense les choses. Vous avez envie de ça, vous aussi ? Alors, à ce moment-là, je vivrai avec la même perspective que Dieu et les choses m'apparaîtront sous un autre angle, sous un angle différent. Un autre proverbe nous dit « Un homme qui comprend garde sa paix. » Un homme qui comprend garde sa paix. Proverbe 11:12, c'est la traduction américaine, American version, standard version. Et ça veut dire que si je comprends les choses et que je les vis dans la perspective de Dieu, je garderai ma paix. Intéressant ça,
ah oui.
À savoir. Donc il y a de la paix dans la compréhension. Donc on va aller un peu plus loin pour essayer de comprendre des choses. Et je comprends que même si les difficultés existent, si je comprends pourquoi, si je comprends les choses, je vais pouvoir garder ma paix. Et pas me laisser embarquer par les flots des difficultés de la vie. Parce qu'il y a une raison de Dieu derrière la scène, derrière ce que l'on voit. Il y a une perspective de Dieu derrière ce que l'on voit. Alors, on va lire ensemble Actes, au chapitre 17. Et c'est un petit passage sympathique. Mais avant de démarrer à lire Actes, j'aimerais juste vous rappeler qu'à mon époque, quand on se convertissait, je sais pas, j'imagine que vous deviez vivre la même chose vous aussi, peut-être pas lui, mais à mon époque c'était ça, quand on se convertissait, on mettait l'accent sur l'importance de se séparer du monde. C'est pas vrai? On doit se séparer du monde. Basé sur un verset tout à fait juste, 2 Corinthiens 6, 17, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, sortez, séparez-vous, dit le Seigneur, séparez, ne touchez pas à ce qui est impur, ne touchez pas, et je vous accueillerai. Donc il y avait une emphase toute particulière sur le fait de sortir du monde. Et à ce moment-là, on quittait ses amis, on se coupait peut-être de nos activités, bref, on sortait du monde pour être accueilli au sein de l'Église et pour être accueilli auprès de Dieu. Alors en partie c'est vrai. En partie c'est vrai. Quand nous venons au Seigneur, il est important que le Seigneur soit Seigneur de notre vie. Donc quelque part qu'on se sépare d'un certain nombre de choses. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens vivent à cloche-pied et ils sont à moitié dans le monde, à moitié avec Dieu. Et quand on est à moitié dans le monde et à moitié avec Dieu, ben, on n'est pas bien. Donc c'est vrai que quelque part, il faut se séparer et ne pas avoir une dévotion qui est partagée. Mais il y a autre chose, il y a aussi une autre perspective. Et lorsque j'ai commencé à lire la Bible d'une autre manière, lorsque j'ai découvert l'amour du Père et que j'ai commencé à lire la Bible d'une autre manière, j'ai pu voir autre chose que ce verset-là. J'ai commencé à mieux comprendre et à voir dans une autre perspective. Une des choses qui a changé ma compréhension, c'est que lorsqu'on a j'ai commencé à lire les messages de Paul, toutes les lettres qui sont à l'intérieur. Parce que les messages de Paul sont particulièrement riches. Je les aime tout particulièrement. Et il y a, donc, dans un de ces messages de Paul, on trouve Actes, d'accord, au chapitre 17. C'est un passage où Paul parle, du moins explique, donne un message à des Grecs, un groupe de Grecs. Actes 17, 24 à 26. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Ça pose des bases. Il a fait que tous les hommes soient sortis d'un seul sang, d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. On va s'arrêter là pour l'instant. C'est un verset intéressant. Il dit à ces Grecs que tous les hommes sortent d'un seul sang, d'un seul homme. À partir d'un seul homme, il a fait toutes les nations des hommes pour qu'ils remplissent toute la surface de la terre. Nous avons été créés pour remplir la surface de toute la terre. Nous avons été mandatés depuis le jardin d'Éden pour remplir toute la terre. Et j'ai vu une vidéo ce matin sur Facebook, là, où il y avait des gens, ils interrogeaient des gens, ils leur disaient, mais qu'est-ce que vous pensez que vous êtes? Et alors ils disaient, moi je suis anglais, 100%, tout ça, etc. L'autre, je suis cubain, 100%, etc. Ouais, tu l'as vu? Et ils leur ont fait une analyse ADN. Et au travers de cette analyse ADN, ils ont dit, ben voilà, finalement tu te pensais anglais à 100%, et ben en fait t'es 30% anglais, 5% ça, 10% ça, etc. Et le gars est resté estomaqué. Ils sont tous issus d'un seul sang, d'un seul homme, une seule progéniture. Et ils continuent, ayant déterminé la durée des temps de leur vie et les bornes de leur demeure, l'emplacement exact où ils vont vivre. Dieu a déterminé l'emplacement exact où ils vont vivre. C'est intéressant, ça. En d'autres termes, on n'est pas une erreur. On n'est pas une erreur d'être ici, maintenant, à cet endroit. Dieu a déterminé le temps de notre naissance et le lieu dans lequel on vit. Et c'est rassurant. Depuis toute éternité, il a déterminé ces choses. Et ce n'est pas une erreur d'avoir l'âge qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas une erreur de vivre ce que l'on vit aujourd'hui dans ces endroits. Non seulement il a déterminé le temps de notre vie, mais il a aussi déterminé le lieu où l'on vit. Alors c'est sûr que quand on regarde l'histoire humaine, et que l'on voit tout ce qui s'est passé pour faire les invasions, pour faire la prise de possession de différents pays, on se demande où est Dieu là-dedans. Mais quelque part, Dieu a permis ces choses, non pas qu'il les voulait, mais il a déterminé le lieu et il a utilisé ces choses pour déterminer le lieu de ta vie. et de ta naissance. Ce n'est pas un hasard. Dieu détermine le temps et le lieu pour chaque vie humaine. Ce n'est pas une erreur que je sois français. Ce n'est pas une erreur que tu sois martiniquaise. Ce n'est pas une erreur qu'on soit guyanais, américain, canadien. Ce n'est pas une erreur. Et la suite nous dit, dans Actes 17, 27, « Il a voulu qu'ils, les hommes, cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en nous, en lui, pardon, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il a fait cela pour que tous les hommes le recherchent et pour être trouvés par eux. C'est ça son but. Il voulait que les hommes soient trouvés, enfin cherchent Dieu et le trouvent, que Dieu soit trouvé par lui. Parce qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et puis il y a une phrase magnifique que Paul dit juste après, extrêmement intéressante. Paul va citer un poète grec. Et Paul, vous savez, c'est un homme extrêmement brillant. Je rappelle, au pied de Gamaliel, de la secte des pharisiens, hein, on peut l'appeler comme ça. Et il a été éduqué par ce qui se faisait de mieux à l'époque. Il n'avait pas mieux. Il a habité Tars, et il était dans une ville universitaire, et là, dans Galates, il est dit qu'il a dépassé tous les autres. Tous les autres étudiants, il a été au-delà de tous les autres. Donc il était vraiment extrêmement brillant. Et lorsqu'on fait partie de cette secte des pharisiens, il faut savoir qu'à 12 ans, on apprend par cœur la totalité du Pentateuque. À 12 ans, il était capable de se tenir devant vous, où il disait le verset, le chapitre, etc., et vous le récitez. Paul était extrêmement brillant. Et c'était normal pour son âge, lorsqu'on faisait partie de cette secte. Et j'imagine qu'au travers de sa vie, à l'intérieur de cette ville universitaire, ben forcément, il a côtoyé énormément de cultures, de toutes les cultures qui étaient dans l'Empire romain à cette époque, dont les Grecs. Et au travers de, cette culture qui était à ses côtés, il a lu un jour un livre, un poème, et ce poème a marqué son esprit. C'est un poème grec qu'il va citer. Donc dans notre passage, il faut se rappeler qu'il parle à des Grecs. C'est très important. Ils sont les leaders de la cité d'Athènes. Les voilà que c'est des gens qui ne savent pas quoi faire de leur temps. Ils se lèvent le matin, c'est des gens riches, hein, ils se lèvent le matin et ils se disent « Tiens, je vais occuper ma journée ». Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont religieux et ils philosophent. Ils essayent de comprendre tout ce qu'ils peuvent comprendre dans la philosophie. Ils discutent entre eux de la philosophie. Et il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que les Grecs ne veulent pas offenser un seul dieu. Ça fait partie de leur culture. Donc ils ont tellement cette peur d'offenser un dieu qu'ils ont mis une plaque pour honorer le dieu qu'ils auraient pu oublier, pour être sûr qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Et ils sont vraiment religieux et philosophes, et ces Grecs, à un moment donné, entendent Paul prêcher dans la rue. Et ils l'invitent à l'intérieur de l'aéropage, un endroit où vraiment là on peut s'exprimer devant tout le monde, et ils lui ont dit « Viens, parle-nous de ce que tu es en train de dire, qu'on puisse discuter, philosopher sur ce que tu es en train de dire. » Et c'est là qu'on retrouve donc dans notre histoire Paul en train de parler, et alors qu'il leur parle, il cite ce poète grec. Pour ceux qui aiment la culture, vous pourrez le dire demain, il s'appelle Aratus. Et ce qui est extraordinaire, ce qui m'amuse particulièrement, c'est qu'un poète grec a au moins un verset de son poème à l'intérieur de la parole de Dieu. Quand même extraordinaire. Je ne suis pas sûr qu'il ait réalisé, quand il a écrit son poème, qu'il était en train d'écrire la parole de Dieu. Je ne suis pas sûr du tout de ça. Mais plus que cela, Paul dit que ce poème, ce qu'il est en train de citer de ce poète, est vrai. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Il n'est pas en train de citer un truc, on le reprend en disant quelque chose. Non, Il dit que ce poète disait quelque chose de vrai. Et c'est la sagesse de Dieu, la vraie. C'est pas seulement la connaissance de ce poète, c'est la parole de Dieu, celle qui a été soufflée et inspirée par le Saint-Esprit. Ce poète, au moment où il l'a écrit, a été inspiré par le Saint-Esprit pour écrire, pour qu'un jour, ce texte soit récupéré et mis dans la parole de Dieu. C'est pas bon ça ? Pas extraordinaire ? Et regardons ce qui est dit. Regardons ce que dit Aratus. Acte 17, 28. Donc Paul dit, « En lui, Dieu nous dit que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. » De lui, nous sommes la race. D'autres traductions diraient, « De lui, nous sommes la progéniture. De lui, nous avons l'ADN. » Nous sommes issus de lui. C'est ce qu'était en train de dire ce verset. Acte 17, 29, on reprend le poète grec et on dit, Paul dit, « Ainsi donc, étant la race de Dieu, la progéniture de Dieu, » on reviendra tout à l'heure. Et quand j'ai remarqué ça pour la première fois, je l'ai lu plusieurs fois avant de le remarquer. C'est pas ça, je l'ai lu je ne sais pas combien de fois. Mais là, d'un seul coup, on le lit et ça saute aux yeux et ça devient évident. Paul parle à une audience de non-chrétiens, je le rappelle. Et Paul leur dit, il dit à tous ces gens non-chrétiens devant lui, nous, donc il inclut les gens qui sont devant lui, non-chrétiens, sommes la progéniture de Dieu. Étonnant. Nous sommes les enfants de Dieu. Et moi, j'ai toujours été enseigné que l'on devient fils ou fille de Dieu quand on a reçu Jésus-Christ à l'intérieur de son cœur, que l'on est né de nouveau, que l'on est sauvé, d'accord, et à ce moment-là, que l'on peut hériter du royaume et vivre les bénédictions de fils et de fille. Alors, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Il faut que je naisse de nouveau pour hériter et vivre toutes les bénédictions que Dieu a voulu pour moi. Mais pourtant, ce verset dit à tous ces Grecs devant lui, nous sommes les enfants de Dieu. Alors, comment est-ce que Paul peut dire que ces Grecs non chrétiens sont les enfants de Dieu ? Intéressant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'attise. Alors, avant de continuer, je voudrais quand même réinsister sur la chose, parce que c'est important. Je voudrais dire quelque chose de très très clair. Nous n'allons jamais bénéficier d'aucun avantage ou bénéfice d'être des fils et des filles de Dieu tant que nous ne sommes pas nés de nouveau par le salut en Jésus-Christ. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus, c'est clair et c'est absolu. Mais il y a quelque chose de plus que Paul est en train de nous dire. Parce que, ayant été enseigné dans ces choses, j'ai appris qu'avant d'être chrétien, j'ai marché dans les ténèbres sous la coupe du diable. La Bible dit clairement, vous avez pour père le diable. Tant que ces gens n'avaient pas vécu la nouvelle naissance, ils avaient pour père le diable. Parce que le diable, depuis la chute, a pris la place et il dirige le monde. Paul nous dit, nous sommes, en parlant à tous ces Grecs, même ceux qui ne sont pas nés de nouveau, la progéniture de Dieu. Alors ça ressemble un petit peu à l'universalisme, mais ça n'en est pas. Et ça ressemble à quelque chose qui n'est pas de la doctrine chrétienne, et pourtant ça en est. Alors, en essayant de comprendre, on va être obligé de revenir un petit peu en arrière pour essayer de comprendre. Dieu a d'abord créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et sa pensée et son but profond volontaire, intense, c'était que Adam et Ève ne pêchent pas. Il n'a jamais voulu que Adam et Ève pêchent. On est bien d'accord avec ça. Et des théologiens discutent à ce jour et argumentent l'un l'autre pour savoir si Dieu savait que Adam et Ève allaient pécher. Il n'y a pas un côté plus fort que l'autre, ils ont chacun leurs arguments, et aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas. C'est très clair. Il n'y a pas de possibilité de comprendre. Et c'est une des questions sur laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui. Par contre, ce que nous savons, c'est que les plans de Dieu pour Adam et Ève étaient un vrai plan. Et son but, c'était qu'ils ne pêchent pas. Ça, par contre, on sait le dire. Et si on veut comprendre pourquoi toutes les personnes du monde sont enfants de Dieu, il nous faut comprendre alors le mot rédemption. Il nous faut revenir à ce mot et que signifie que Jésus, au moment où on croit, au moment où on accepte sa vie en nous, que signifie que Jésus est le rédempteur de nos vies? Le mot rédemption, je l'ai dit la dernière fois, c'est équivalent à racheter. Alors, si ma femme, non, plutôt mes enfants, veulent m'acheter une montre pour la fête des pères, ils vont aller au marchand, elle est très bien ma montre, donc j'en veux pas. Et ils vont dire, ils vont acheter une montre. Acheter une montre, c'est pas rédempter une montre. C'est acheter, c'est pas racheter. Pour racheter une montre, il faudrait que je l'ai perdue et que quelqu'un la trouve, la vende, et que mon fils la rachète, et auquel cas il aurait racheté la montre. Là, il a rédempté la montre. C'est un peu comme dans les sous-doués passent leur bac, là. Il y en a un, il n'arrête pas de racheter la bobinette qu'il avait. Mais il rédempte sa bobinette.
Sans le savoir.
Sans le savoir. Donc, quand Jésus est venu et mort à la croix pour nous, il a payé le prix avec son sang et il est devenu le rédempteur, il nous a rachetés. Alors, il ne nous a pas achetés à quelqu'un qui nous a créés, fabriqués, conçus, mais il nous a rachetés, d'accord, parce qu'il était l'ancien propriétaire. Alors, on ne peut pas dire que toute la chrétienté est tout entière rachetée sous la rédemption si nous ne comprenons pas que nous étions pécheurs et que avant d'être pécheurs, nous appartenions à Dieu. C'est ça, racheter. On est tous d'accord ? S'il nous a rachetés, ça veut dire qu'il reprend sa propriété. Ça veut dire qu'avant d'être pécheurs, on était à lui. On était à notre Père. Et cette appartenance n'est pas durant notre vie, ni dans la vie de nos parents, mais dans Adam et Ève eux-mêmes qui marchaient dans la présence de Dieu avant la chute. Dieu nous dit qu'on était en chacun des deux, que c'est là que ça commence, de lui nous sommes la race. Car nous venons tous d'eux, nous avons été pensés par Dieu avant la fondation du monde. Et on se rappelle de la généalogie de Jésus. J'aime beaucoup la généalogie de Jésus dans Luc. Il y a toute la généalogie et ça termine par Adam, fils de Dieu. Nous sommes tous issus de la progéniture de Dieu. Alléluia. L'objectif de Dieu pour nous, son premier objectif, si nous arrivons à l'imaginer, c'est que Adam et Ève ne pêchent jamais, qu'ils se multiplient sur toute la terre, comme le commandement leur en est donné dans Genèse au chapitre 1. Qu'ils remplissent la terre et qu'ils la dominent, qu'ils se multiplient, qu'ils l'assujettissent, et la remplir sans péché. La remplir sans péché. Sans que Adam et Ève et toutes les générations qui ont suivi ne pêchent. Est-ce que vous arrivez à imaginer cela? Est-ce que vous arrivez à penser cela? C'était ça son plan. C'était ça son plan, c'était ça son objectif. Imaginez à quoi ressemblerait le monde s'il n'y avait pas eu la chute, s'il n'y avait pas eu le péché, si personne n'avait péché. À quoi est-ce que ça ressemblerait? Ça serait tellement différent. Aucune maladie. Plus que cela, s'ils n'avaient jamais péché, Adam et Ève seraient encore en vie. Et les voilà qui frappent à la porte de chez Martha et David. Bonjour, je suis Adam et Ève. Ils sont encore vivants. Leur progéniture serait encore vivante. Nos parents et parents et grands-parents, etc., seraient encore vivants. Ah, ils auraient certes à peu près 20 000 ans, hein. Ouais, comme ça, hein, à vue de nez. J'en sais rien, parce que j'ai pas... Mais c'est les estimations qu'on fait. Et si Adam marchait dans cette pièce-là, à cet instant, mais on le prendrait pour Dieu lui-même. Lorsque Moïse est monté à la montagne, 40 jours, il est redescendu, au bout de 40 jours, ils ont été obligés de lui mettre un voile sur la tête parce que c'était insupportable de le voir, de le regarder, c'était impossible. Il brillait, c'était le phare, quoi. Et là, on ne parle pas de 40 jours, mais on parle de milliers d'années avec Dieu, et non pas un petit peu de Dieu, parce que Moïse n'a pas vu Dieu dans son ensemble, il n'a pas vu sa face. Mais on parle de la totalité et de la plénitude de Dieu déversée dans Adam pendant des milliers d'années. S'il venait ici, mais c'est presque Dieu lui-même pour nous. Alléluia. Et c'est à ça que Dieu avait pensé lorsqu'il a créé Adam et Ève. C'était son objectif. Et on n'aurait pas été les seuls êtres vivants, ils n'auraient pas été les seuls êtres vivants, tous nos parents, je le disais, tous les autres auraient été aussi vivants. Il n'y aurait pas eu de mort. La mort est une chose extrêmement difficile à supporter et à concevoir, à affronter. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas été créés pour la mort. Tout simplement. Aucune forme de rejet, de solitude, de trauma, quoi que ce soit, d'injustice, de toutes ces choses qui nous blessent et qui sont difficiles à affronter pour nous, n'existerait parce que nous n'avons pas été créés pour cela. Nous n'avons pas été créés pour vivre ces choses. Nous avons été designés pour un monde où Adam et Ève n'auraient jamais péché. Alléluia. Et la différence pour nos vies, ça aurait été celle-ci. Toutes les personnes que vous auriez rencontrées tous les jours, en marchant, dans la rue ou pas la rue, je ne sais pas comment aurait été ce monde, auraient exprimé envers vous uniquement de l'amour, de l'acceptation, de la reconnaissance, de la valorisation. De l'intérêt pour vous. Waouh! C'est ça le monde que Dieu a prévu. De la joie, de la paix, de la bonté, de la douceur, de la bénignité, de l'amour. Leur regard et leur attitude auraient été remplis. Ça aurait été magnifique. Vous vous seriez senti super. Tout simplement accepté, accueilli. Vous auriez senti que vous étiez une source pour les autres de bénédiction. Vous auriez été accueilli dès votre naissance parce que vos parents eux-mêmes n'auraient jamais souffert autre chose et ils vous auraient donné et communiqué tout l'amour qu'eux-mêmes auraient reçu. Ça aurait été tellement fort, prégnant, intense. Et cela nous aurait affectés jusqu'au plus profond de notre être. Et c'est tellement fort que je pense que nous n'arrivons même pas à l'imaginer. Mais c'est ça la vie auquel Dieu nous a appelés de vivre. Quand il dit plus tard qu'il n'y aura ni pleurs, ni grincement de dents, ni tristesse, c'est ça la vie à laquelle nous avons été designés pour vivre. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer un petit peu ce que c'est pour Adam que d'être né 100% adulte, déjà développé, et en un instant? C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de progression. Il est devenu adulte, en un instant, il est né et il a reçu. Avec la ressource complète de sa pensée, avec la ressource complète de son intelligence, de ses émotions, de toute sa volonté intérieure. Il avait tout en lui déjà designé et il est devenu en un instant cet adulte vivant, avec une pleine capacité à comprendre. On dit aujourd'hui que notre cerveau, nous en arrivons à comprendre, à n'utiliser que 10%. Mais je suis persuadé que Adam, lui, pouvait utiliser les 100% qu'il avait à sa disposition. Il était 100% fonctionnel. Et il est venu dans ce monde, il est devenu adulte en un instant, et il a reçu immédiatement tout l'amour et la plénitude de Dieu lorsqu'il a ouvert les yeux. Il a été formé dans sa volonté, formé dans ses émotions, formé dans son intelligence, par l'amour qui s'est déversé sur lui en un instant. Il a été, comme Éphésiens le dit, fondé et enraciné dans l'amour. L'essence même de sa personne a été saturée de sa présence, de savoir combien il était aimé, voulu et accepté. Waouh ! Il a regardé droit dans les yeux de Dieu lui-même, du Père. Et immédiatement après avoir été conscient, rien d'autre n'a pu polluer son cerveau, ni ses émotions. Les yeux dans la parole de Dieu sont utilisés pour deux choses différentes. La première nous dit, les yeux sont la lampe du corps, les yeux physiques. On parle là des yeux physiques. Et la deuxième nous dit, c'est la fenêtre de l'âme, pour les yeux du cœur. Et quand on regarde droit dans les yeux d'une personne, on peut connaître, on peut ressentir, on peut déverser des émotions. D'accord ? Vous êtes d'accord avec ça ? Je peux manifester de l'amour à quelqu'un qui est à 10 mètres de moi, par-dessus une foule bruyante, rien qu'en le regardant. Les yeux sont la fenêtre du corps. Et Adam, lorsqu'il est devenu conscient en un instant, il a ouvert les yeux et il a pu plonger droit dans le regard du Père, qui est la plénitude de l'amour parfait. Waouh ! Ça l'a rempli, hein ? Il a été littéralement saturé de sa personne. Et le but de Dieu est que chaque fils et chaque fille qui naissent après, depuis toute l'éternité, soient saturés du même amour. Du même amour. Par la transmission des parents et par la présence de Dieu lui-même sur la terre. Par la même révélation, jour après jour de leur vie, de la présence du Père. Nous avons été designés pour ce type de monde. Nous n'arrivons pas à l'imaginer, mais nous avons été designés pour ça. Nous avons été designés pour que notre naissance naturelle soit l'ouverture à toutes les expériences de Dieu comme Père. Nous avons été designés pour ça. Nous avons été créés pour entrer dans toutes les bénédictions de Dieu comme Père. Et notre naissance naturelle aurait dû être en fait une entrée dans la connaissance de toutes les bénédictions issues du fait de connaître Dieu comme Père. Waouh! Waouh! Ça ouvre des options, hein? On n'aurait pas le mot sécurité. Il n'a absolument aucun intérêt. Absolument aucun. On ne peut pas imaginer ce que c'est que de ne pas être en sécurité. Donc le mot sécurité n'existerait même pas. On n'aurait pas le mot peur. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Il n'y a aucune raison que ce mot existe. Il y a tellement de choses dans nos vies qui seraient complètement différentes si Adam et Ève n'avaient jamais péché. Et c'est pour cela que Dieu veut que nous connaissions son amour pour nous. C'est pour cela que Dieu veut que nous nous enracinions en lui. C'est pour que nous rentrions dans l'appel auquel nous sommes designés et appelés. Vous pouvez essayer de vous battre avec la doctrine de Dieu. Vous pouvez essayer de croire. Vous pouvez essayer de vous tenir sur les promesses de Dieu en les récitant les unes après les autres, en les apprenant par cœur. Vous pouvez essayer de les répéter. Vous pouvez essayer au travers de toutes ces choses de faire qu'elles soient en vous. Mais moi, je vais vous dire, si vous ne savez pas que Dieu vous aime, vous allez rencontrer de grandes difficultés pour vivre l'assurance auquel Dieu vous appelle. Tant que vous ne savez pas au plus profond de vous-même que dans la fondation de votre être, que Dieu, votre Père, vous aime, il sera difficile pour vous de croire et de vivre dans la pleine liberté de ce que la Bible vous offre et dans le fait qu'il prend soin de vous. Parce qu'il vous aime. L'amour est la fondation de toute chose dans la vie chrétienne. Ce n'est pas un aspect de la vie chrétienne. Ça doit être la fondation de toute chose. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il faut comprendre, croire, expérimenter et marcher dans l'amour de Dieu, notre Père. C'est tout cela, la vie chrétienne, en fait. Des fois, j'imagine ce que c'était pour Adam que d'ouvrir ses yeux quand Dieu a soufflé ce souffle de vie sur lui. Et quand il a regardé la face de Dieu, quand cet amour absolu s'est déversé sur lui. Et moi, j'ai vu les chutes du Niagara. C'est immense. C'est impressionnant. C'est des lacs entiers qui se déversent en une seconde. Et encore, ils ont ralenti. Ils ont dévié une partie du cours. Eh bien, je crois qu'il a reçu les chutes du Niagara de l'amour de Dieu à l'intérieur de soi. Pour inonder son être. Il a été marqué, imprimé, fabriqué, conçu, pensé par l'amour. C'est pour cela que Paul dit dans Éphésiens 3, 17, et je le redis à nouveau, c'est pour cela que je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui est l'amour du Père déversé en lui, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Paul a eu la révélation de ce que Adam a vécu. Si ce n'est pas Adam, ce n'est pas grave. Mais c'est ce que Adam a vécu. Il a compris l'objectif de la vie chrétienne. C'est son but. Que nous soyons absolument remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu qui est amour, enraciné et fondé dans l'amour. Que nos vies ne soient pas seulement convaincues, mais saturées de la réalité de Dieu comme Père et de son amour pour nous. Et vous savez, je pense que quand on sait cela, c'est vraiment plus difficile pour vous de ne pas croire la parole de Dieu. Trop de gens se disent sur le chemin pour être saints. Et ils disent, on va apprendre, on va réviser, on va répéter, etc., etc., etc. Jusqu'à ce qu'on soit convaincu de la parole. Mais je vais vous dire, vous ne serez jamais convaincu de cette façon. Jamais. Mais quand son amour vous remplit, quand vous vivez cette expérience, que vous savez qu'il vous aime, que vous savez, que vous savez, que vous savez qu'il vous aime, alors ce livre devient vraiment différent. Alors ce que vous vivez, la façon dont vous le vivez, devient différent. Parce que vous le Je suis choisi. Je ressens combien c'est extraordinaire d'avoir été choisi. Quand on vient à Christ, il y a ce choix à faire dans nos vies, c'est sûr. À un moment donné, on le fait. On soumet notre pensée, notre vie, notre esprit à sa volonté. On l'a chanté tout à l'heure. Et puis, on rentre dans l'arche. On est sauvés nous aussi. Et puis là, on regarde en arrière. À un moment donné. Et on se dit, mais attends, je croyais t'avoir choisi, mais en fait, c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as aimé avant la fondation du monde. Ce n'était pas ma décision. Il m'a choisi. Il m'a poussé. Et si on prend Jérémie au chapitre 1, c'est un verset... qui est ici et qui est donné à Jérémie. On ne sait pas tout à fait dans quelles circonstances il a été donné, mais il a été donné bien avant qu'il ait démarré son ministère. Ça, c'est sûr. Et c'est, je dirais, la fondation du ministère de Jérémie. Alors, nous ne savons pas trop comment ça s'est passé, mais voilà ce qui est écrit. Jérémie, chapitre 1, verset 4. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Avant que je ne t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Alors, on peut regarder ce verset et puis croire que toutes les personnes sont appelées prophètes. Bon, certes, on est tous appelés à dire la parole de Dieu autour de nous. Et à échanger là-dessus, d'accord ? Mais ce n'est pas parce que ce verset est écrit là que nous sommes tous prophètes des nations. Hein ? Certains sont rentrés dans leur ministère au travers de ce verset, très bien, c'est parce qu'ils ont reçu, ils ont eu le logos, c'est-à-dire la lecture du verset, et ils ont eu le réma, la puissance qui va avec. Mais nous ne sommes pas tous appelés prophètes des nations. Par contre, ce que je pense, c'est que la première partie de ce verset nous concerne tous. La première partie de ce verset nous concerne tous. Avant que je ne t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici ? Comment peut-il connaître Jérémie avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère ? Alors, je suis papa. Je sais bien comment ça fonctionne quand même un peu. D'accord ? J'ai des enfants. On va pas tout dire, ils sont là. Mais je sais comment ça fonctionne et avant, il n'y a rien. D'accord ? Voilà. Et je ne crois pas à la réincarnation. Alors certains dans la parole de Dieu y ont cru, là, à un moment donné. Ils disent oui, la Bible parle de la réincarnation, parce que Jean-Baptiste, à un moment donné, c'était Élie. Là, ils ont dit ça. Alors, c'est un peu perturbant, parce que quand on lit la parole de Dieu, à un moment donné, ils montent sur la montagne. Pierre, Jacques et Jean. Ils ne voient pas Jean-Baptiste, ils voient Élie. Bon. Je les laisse à leur réflexion. La Bible dit clairement, en tous les cas, qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Alors, comment est-ce que Dieu connaissait Jérémie avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère? Pour moi, il n'y a qu'une seule solution possible. C'est que quelque part, avant que Jérémie ne soit conçu dans le sein de sa mère, Dieu a designé dans sa pensée la véritable personne de Jérémie comme un architecte design un building. Quelque part avant, il avait imaginé Jérémie. Il a designé sa personne, son physique, son mental, ses émotions, sa façon d'être, spirituellement, émotionnellement, les dons et les talents qu'il devait recevoir. Tout ce qu'il devait avoir, il l'a designé. Jusqu'à ce qu'il puisse dire, je sais qui cette personne va être. Et un jour, Jérémie est né. C'est ça qui s'est passé. Et avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère, je te connaissais, dit Dieu. Et c'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Quelque part, avant sa naissance, avant la fondation du monde, Dieu nous a conçus. Il nous a choisi la couleur de nos cheveux. Il nous a choisi la couleur de nos yeux. Il a choisi notre forme physique, la couleur de notre peau. Il a choisi nos talents. Il a choisi nos dons. Il a choisi notre hauteur, notre taille. Il a choisi le lieu de notre demeure. Il a choisi les temps de notre demeure. Et à un moment donné, il a dit, « J'ai designé. » J'ai designé David. Je l'ai choisi comme ça. Et en disant cela, parce qu'il a designé chacun des détails de notre être et de notre vie, on peut dire qu'il est vraiment notre Père. Il nous a créés. Il nous a conçus. Il nous a designé. Notre vrai Père et Mère biologique, eux, ils ne nous ont pas designés. Ils ne savaient même pas si on était un garçon ou une fille. Tandis que le Père savait. Le Père savait si on était un garçon ou une fille. Il connaissait chacun de nos détails, avec nos talents. Il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment bon. Et il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment mauvais. On peut dire ça comme ça. Et il a donné à chacun des dons et des talents particuliers qui sont différents les uns des autres. C'est important. Vous voyez, quand Martha chante, c'est agréable. Quand je chante, c'est déjà moins agréable. Il a donné à chacun les dons. Et pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas donné les mêmes dons? Mais parce que si on était tous capables de faire la même chose, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Je t'invite chez moi, j'ai préparé à manger. Ah bah ouais, mais je sais faire exactement la même chose. Je peux pas venir t'écouter. Je t'invite chez moi, j'ai fait des peintures. Ah ouais, mais moi je suis dessiné pareil que toi. Ça n'aurait aucun intérêt. Il faut que les gens soient différents pour que chacun puisse apprécier les dons et les talents que Dieu a déposés dans l'autre. On n'irait jamais voir une exposition de peinture. Mais lorsqu'on rencontre des gens doués, talentueux, que Dieu a manifesté en eux, eh bien, à ce moment-là, je me régale. La chose la plus merveilleuse, c'est que quand il nous a conçus, qu'il a imaginé Martha, lorsqu'il a imaginé Martha, il l'a fait dans son amour. Ce qu'il a créé, ce qu'il a conçu, a été conçu dans son amour. Waouh. C'est pas « Ouais, j'ai du boulot, là, aujourd'hui, je suis à la chaîne. » Non, je le conçois dans mon amour. Certains naissent dans cette vie et ils pensent qu'ils sont une erreur. Ils pensent que Dieu ne les veut pas. Ils pensent peut-être qu'à cause de leurs parents, oh, on voulait d'abord un fils, une fille, etc. On a divorcé, on s'est marié à cause de toi, etc. Peut-être les parents, eux, n'en avaient pas conscience. Mais le Père, lui, l'a toujours voulu. Le Père l'a toujours voulu. Dieu, notre Père, nous a conçus chacun d'entre nous avant que nous soyons dans le sein de notre mère. Donc, avant même que tout cela s'enchaîne, si nos parents, eux, ne nous ont pas acceptés, c'est autre chose. Il n'y a pas d'enfant illégitime. Il n'y a que des parents illégitimes. Car tous les enfants qui naissent dans ce monde ont été voulus et designés dans l'amour de Dieu, notre Père. En ce sens, il est le Père de chacun d'entre nous. Il est le Père de tous les hommes sur la terre. C'est pour cela qu'on peut lire dans Actes au chapitre 17, par la bouche de Paul, écrit par le poète grec, « Nous sommes la progéniture de Dieu. De lui, nous sommes la race. » Car dans son plan originel pour l'humanité, il nous a designés par amour. Il nous a pensés et créés. Et vous savez quand est-ce qu'il nous a designés? Est-ce que c'est 5 minutes avant notre naissance? Oula, vite, là, oula, ils sont dans un moment, là, il va falloir vite en prévoir un. Bon, attends, je mets des poils là, c'est fait. Non, il n'a pas fait ça dans le rush. Mais il nous a designés il y a des mois et des années avant même la fondation du monde. Je pense qu'avant même qu'il y ait un seul atome de l'univers, il nous a designés, il nous a pensés. Il a créé l'univers, non pas pour créer l'univers, non pas parce que c'est joli, mais il a créé l'univers pour nous y placer dedans. Il a fait le nid. Il nous a pensés, conçus, imaginés, designés avant même la fondation du monde. Quand on regarde les étoiles, on dit « Waouh !» Et je me rappelle, j'étais à Montpérouge, c'est un petit village en Auvergne, et il y avait une grande terrasse. Il y avait 30 mètres carrés de terrasse, tout en haut du village. Et je me rappelle avoir dormi des nuits là-haut. Et je regardais les étoiles, il n'y avait aucune pollution lumineuse, il n'y avait rien, c'était un petit village. Et je disais « Waouh !» Et en fait, Dieu veut qu'on dise « Waouh !» Parce qu'il veut qu'il connaisse quel père. Qu'on connaisse quel Père il est. Parce que la création manifeste qui il est. Il veut qu'on le cherche au travers de cette création et qu'on le trouve. Qu'on soit comme des enfants étonnés de ce qu'il a fait. Le fait est que nous sommes les enfants de Dieu à quelque part dans le passé, avant même la fondation du monde. Parce qu'il a décidé de nous avoir. Il nous a conçus. Et lorsque l'on est venu au monde, lorsque David est venu au monde, il a dit « Waouh, c'est le jour que j'attendais depuis si longtemps. Je l'ai conçu, je l'ai imaginé, je l'ai pensé, et il est là. » Dieu aime David. Il a accepté. Même si la cause de la chute, notre naissance naturelle, a été perturbée, il reste notre Père et il continue de l'être. Il continue de nous aimer comme notre Père. Mais tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, Nous ne pouvons pas rentrer dans la totalité des bénéfices de ce qu'il est Père pour nous et devenir héritier du royaume. Il a envoyé Jésus pour nous, pour que nous puissions naître de nouveau, pour que nous puissions vivre cette seconde naissance, pour nous ramener, pour nous racheter et nous ramener dans toutes les bénédictions de ce que nous pouvons vivre lorsque nous le connaissons comme Père. Vous savez, si on demande au top modèle, j'ai déjà remarqué, est-ce qu'elle se trouve jolie ? Elles vont vous dire oui. Mais peu après le oui, elles vont vous dire mais. En anglais, lorsque vous avez but derrière le oui, en général, ça veut dire non.
Non.
En français, c'est peut-être moins marqué, mais ça reste quand même vrai. Oui, mais le nez est trop long. Mais les oreilles ne sont pas comme il faut. Mais les seins sont mal placés, etc., etc. Parce qu'elle se compare à quelque chose d'hollywoodien qui n'existe même pas. Et quelque part, Hollywood nous a volé une partie de l'incroyable beauté que Dieu a déposée dans nos cœurs. Il a mis des standards qui ne sont pas les standards de Dieu. Dieu n'a rien fait de laid. Un artiste est connu par ses œuvres. Je me souviens, quand on était chez Jean Berthaud, on allait de temps en temps vers Marseille, par là-bas. Là. Et on passait devant un artiste qui avait mis des tas d'œuvres à l'extérieur dans son jardin.
Des sculptures.
Des sculptures. Je vous garantis que quand vous voyiez les sculptures, vous aviez envie de courir dans le sens opposé. La personne était certainement très perturbée. Et Dieu n'a rien fait de laid. On reconnaît l'artiste à ses œuvres. Dieu n'a rien fait de laid. Il vous a fait beau. Vous êtes magnifique. Psaume 139. Il vous a créé comme une expression de sa propre nature. Et beaucoup de gens se sentent jamais aimés, ne peuvent pas se tenir devant les autres, ils se sentent pas comme il faut, pas à l'aise, parce qu'à cause de leur physique, de leurs histoires, de leur passé, de tout ce qu'on veut, et ils se couvrent avec un voile de séparation, ils ne se sentent pas acceptables, et pourtant Dieu a créé chacun de nous et il nous a rendus, parce qu'il nous a créés avec amour, totalement acceptables. Alors on a juste était prêté à nos parents biologiques. Il connaît tout de nous, il nous a créés, il nous a formés. Il nous a designés comme un vrai père qu'il est. Et il va être pour nous un père pour l'éternité, si nous recevons Christ et que nous marchons toute notre vie avec lui. Nous allons connaître notre père, nous allons grandir dans la connaissance de son nom. Et nous allons lui ressembler pour l'éternité. Nos parents, s'ils sont chrétiens, vont devenir petit à petit, au fil des années, que des frères et sœurs. Parce qu'ensemble, nous marchons vers le Père et nous sommes remplis de lui. Dieu, notre Père, nous restaure. Et s'il nous restaure dans sa paternité pour nous, il nous restaure dans ce que nous sommes de fils et de filles. Et c'est normalement le sujet de la prédication de la semaine prochaine pour ceux qui en ont envie. Et il nous restaure là-dedans, c'est là qu'il nous amène. Il nous rachète, non pas pour vivre un attouchement de son amour, mais pour vivre dans la plénitude de son amour, fondé et enraciné en lui, pour que nous le connaissions comme un père, et que nous prenions notre place de fils et de fille, comme Adam l'a vécu, comme Jésus, le second Adam, l'a vécu, pour que nous puissions marcher, nous aussi, avec lui, en lui ressemblant, en étant comme lui. C'est là qu'il nous amène. C'est dans cette perspective de vie qu'il nous amène. Vous voyez que ça change les choses. Vous voyez qu'on a démarré sur une perspective, on a fini sur une autre. Ça change les choses. Je ne suis pas Jésus, c'est sûr. mais je suis son fils en Christ. Et il est devenu mon père, et je suis son fils maintenant et pour l'éternité. Et il a toujours voulu cela. Jamais il n'a quitté cette pensée. C'est pour ça qu'il a crié, je ne vous laisserai pas orphelin. Jamais il n'a quitté cette pensée. Et il a dû payer pour me racheter, lui qui était mon créateur. Je suis revenu à mon propriétaire. J'ai toujours été son fils. Aujourd'hui, je reviens comme lui. Je le serai toujours et rien ne peut l'enlever, même pas la mort. Même pas la mort. C'est pas une chose merveilleuse ? C'est pas une chose qui change la vie ? C'est ce que nous sommes. Et on va terminer doucement en rappelant que Dieu n'a jamais rien fait de laid. En êtes-vous avec vous-même ? J'en suis arrivé à comprendre, après bien des années, que finalement je devais accepter ce que je suis, et je ne suis pas laid. Je suis une créature merveilleuse. Et si quelqu'un ne peut pas le voir, que je suis une créature merveilleuse, cela fait juste la différence entre lui et Dieu. C'est le chemin qu'il a à parcourir pour se rapprocher de Dieu. Si un homme ou une femme n'aime pas son mari ou sa femme, c'est le chemin qui le sépare entre lui et Dieu. Dieu pense que je suis magnifique, et vous l'êtes aussi. Pas autant que moi. Certes, pas à la manière d'Hollywood. Pas à la manière d'Hollywood. Hollywood nous montre ce qu'est une belle apparence. Mais c'est une apparence qui ne sera jamais atteinte. Et je ne dis pas que j'ai quelque chose contre les make-up, c'est rien de ça. Mais Dieu nous a créés merveilleux selon ses standards. Alors Dieu nous fait merveilleux. Dieu lui-même m'aime parfaitement. Et pourtant, il connaît toutes mes fautes. Il sait tout de moi. Mais il m'aime absolument. Que les fautes de l'autre ne soient pas un obstacle à l'aimer, puisque Dieu peut le faire. Il nous faut apprendre à voir la beauté en chacun de nous et la beauté sur les autres, parce que cela fait la différence entre nous et Dieu. On ne peut pas dire « je n'aime pas cette personne » car elle a tellement de fautes dans sa vie. Dieu ne regarde pas comme ça. Quand on n'est pas capable d'aimer et d'exprimer l'amour, cela nous montre juste le chemin à parcourir vers le Père. Car Dieu, notre Père, quelque part dans le passé, nous a conçus et a conçu l'autre en face de nous. Et il nous a conçus dans l'amour. Dans l'amour. Il est vrai qu'il est notre Père et il connaît toutes nos fautes et il nous aime parfaitement. C'est tout simplement merveilleux. Certains gaspillent leur vie entière pour avoir les talents d'un autre, sans jamais comprendre que finalement, il faut qu'ils apprécient les talents des autres et laissent épanouir leurs propres talents. Certains se battent avec eux-mêmes pour finalement, avec leur corps, avec leur physique, pour finalement ne pas comprendre que Dieu les aime tels qu'ils sont. Et la joie dans la vie, finalement, c'est quand nous découvrons ce que Dieu a prévu que nous soyons et que nous rentrons dans cette perspective. Que nous allons avec cela et que nous le fassions parce qu'il est notre Père et il est merveilleux. Amen, amen. Mmh.